dénoncer la foi non authentifiée qu'il critique, mais dont certains se revendiquent. L'un peut avoir la foi, l'autre les œuvres qui montrent leur foi. Certains disent cette foi est suffisante, elle est pour être une foi authentique. Donc après avoir fait cela, Jacques maintenant va aborder la question des œuvres dans les versets 20 à 23. Verset 20, il apostrophe directement son contradicteur. Tu ne réfléchis donc pas. Veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Ô homme vain, c'est un homme vide de. Tu ne réfléchis pas, tu n'as rien dans la tête. À partir du verset 21, il va donner l'exemple d'Abraham pour fonder ce qu'il dit. Et c'est là que nous abordons le problème de la justification chez Jacques. Jacques va donc souligner que toute foi authentique est authentifiée. Verset 20. Tu veux savoir, ô homme vain, donc, que la foi sans les œuvres, ne veux-tu pas savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est, alors le mot veut dire inutile, ne sert à rien, il est argué, stérile. Alors dans certains manuscrits, il y a le mot morte. Bide, oui, bon. Mais là, il y a un jeu de mots en grec entre inutile, argué en grec, et les œuvres, ergon, erga, les œuvres. Jacques fait un jeu de mots qui souligne l'importance des œuvres. La foi, ne veux-tu pas comprendre, ô homme insensé, sans les œuvres, est stérile, elle est inutile, elle ne fait rien. On pourrait traduire en faisant le même jeu de mots que Jacques, la foi sans les œuvres n'œuvre pas. Le mot qui traduit le mot vanité, vanité de vanité, tout est vanité, on le retrouve en Romains 8, verset. Ça y est. C'est pas possible. Voilà, Matthaiotéti. Oui. Car la création a été soumise à la vanité. C'est donc Romains 8, 20. Il me semble que c'est Matthaiotès, qui est utilisé dans l'Ecclésiaste, mais je ne me souviens plus.
C'est la même traduction.
Ça n'est pas le mot qui se trouve dans Jacques. Non, ce n'est pas le mot qui se trouve dans Jacques. Au verset 20. Homme vide, homme vain. Ça va?
Mais en argue et ergon, c'est la même famille. Je veux dire, c'est des mots à partir de même
expression. Je ne sais pas. Je serais incapable de dire argue et ergon. Une spécialiste du grec, là. Je ne sais pas. Du point de vue des racines, je ne sais pas. le A et le R, c'est pas évident, hein. C'est plutôt... Je ne sais pas. Non, je pense que c'est plus un jeu de mots qu'une racine identique. Et donc, non, le mot qu'on trouve dans Ecclésiaste, donc vanité des vanités, donc Hébel, alors je ne sais pas comment est traduit dans chaque fois que le mot est utilisé dans l'Ancien Testament, mais en tout cas dans l'Ecclésiaste, Romains 8 renvoie à Ecclésiaste. La création de notre tête est soumise à la vanité. Là, c'est vraiment un renvoi direct à Ecclésiaste. Par contre, là, c'est pas le cas. Bon, alors, nous avons donc l'exemple de l'Abraham. Alors, on va reprendre le texte. « Veux-tu savoir, Romains 20, que la foi sans les œuvres est utile ? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que tu dis, Écriture, Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice. » Il peut appeler ami de Dieu. Alors, il me semble très intéressant d'abord de souligner que Jacques, là, se situe bien dans un contexte juif. Verset 21, l'argument donc, qu'il avance, pour critiquer la position de celui qui croit la légitimité d'une foi seule, c'est l'argument d'Abraham, et il dit Abraham, notre père. On se trouve là dans un contexte très juif. Alors Paul pourrait aussi le dire pour des païens convertis, hein. Mais dans le contexte, ça vient tellement spontanément, sans qu'il ait jamais question de païens convertis dans l'épître de Jacques, ça semble être avant la conversion des païens que tout ça, ça se passe. Là, on se trouve dans un contexte juif. Abraham, notre père. Et on sait que les Juifs réfléchissaient beaucoup à l'expérience d'Abraham. Pour eux, Abraham était le héros de la foi, et le sacrifice d'Isaac est sa plus grande œuvre. Dans les textes juifs, on trouve ça à de nombreuses reprises. Je ne vous donne pas toutes les références, mais l'on retrouve cela dans les Jubilés, dans de très très nombreux textes pseudépigraphes, donc qui ne sont pas dans la Bible, des textes juifs non canoniques. Alors, que dit Jacques d'Abraham ? Premièrement, Jacques a été justifié par les œuvres. Verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? On a donc là, oui. Alors, oui, c'est sûr. Alors, quand j'ai parlé d'œuvre de miséricorde ou d'œuvre de compassion, j'annonçais ce que nous allions voir plus tard. Et donc, on va voir de plus en plus. Essayer d'identifier, hein, de préciser quelles sont ces œuvres dont parle Jacques. Mais en tout cas, oui, donc là, ce n'est pas une œuvre de compassion, c'est une œuvre d'obéissance, c'est l'obéissance toute nue, hein, au Seigneur que Abraham a mis en œuvre. Dans le texte de Genèse, chapitre 22, verset 9, Jacques cite d'ailleurs, hein, plus ou moins, fait allusion très directe, au sacrifice d'Isaac, quand Abraham a mis Isaac sur l'autel. Alors, j'aimerais juste souligner que Jacques parle des œuvres d'Abraham, mais il n'en mentionne qu'une. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? Alors, peut-être a-t-il jugé que cette œuvre était suffisante, assez, disons, représentative de ce qu'a été la vie d'Abraham, ou alors, et cela me semble plus dans l'esprit du texte et par rapport au contexte culturel, c'est que dans la tradition juive, cette œuvre, donc le sacrifice d'Isaac, est la plus grande d'une série de 10 épreuves, qu'Abraham a dû affronter. Et le point culminant de cette obéissance d'Abraham. Alors, on réfléchit dans les textes juifs, Jubilé 17-17 à 18-1, etc., enfin dans beaucoup de textes. On réfléchit, la tradition juive, à toutes ces épreuves d'Abraham et le sacrifice d'Isaac, et l'épreuve, l'œuvre la plus importante. Alors, Abraham était justifié par les œuvres dont le sacrifice d'Abraham est la plus importante. Que dire de cette justification d'Abraham? Premièrement, je constate que le terme « justifié » dans le texte ne vient pas de Genèse 22. Dans Genèse 22, il est question du sacrifice d'Isaac, mais nulle part le mot « justifié » n'est présent dans le texte. Le terme lui-même vient de Genèse 15, verset 6, donc 7 chapitres avant. Et Jacques, d'ailleurs, cite Genèse 15, verset 6, au verset 23. Au verset 23, « Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. » Ça vient de Genèse 15, verset 6. C'est une citation. Il introduit d'ailleurs par le terme technique, l'expression technique, « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. » Ce que dit l'Écriture, au verset 23. Et c'est là que l'on trouve le mot « dikaio », le mot « justifié ». Alors, il est intéressant de noter que plusieurs textes juifs lient Genèse 15 à Genèse 22 d'une manière assez proche à ce que fait Jacques, de ce que fait Jacques. 1 Maccabée, chapitre 2, verset 52, unit les deux épisodes du sacrifice d'Isaac, Genèse 22, et de la justification d'Abraham. C'est lié. Et l'on retrouve cela, alors je vous le cite le texte. Abraham n'a-t-il pas été fidèle dans l'épreuve? Et ça renvoie à Genèse 22. Et cela ne lui a-t-il pas été compté comme justice? Citation de Genèse 15. Quand on prend le contexte. Dans l'épreuve, c'est l'épreuve par excellence, celle du sacrifice d'Isaac. Et l'on retrouve ça dans le Siracide, quelque chose d'assez proche, dans Siracide, ou l'Ecclésiastique, hein, c'est même. Chapitre 44, verset 20. Oui?
C'est lorsqu'ils font l'éloge des pères.
Dans Maccabée, faut que je ne me souviens plus, est-ce que c'est pas dans Maccabée lorsque l'on parle même de la prière pour les morts, disons, il faut jusqu'au bout aller obéir à Dieu au prix de sa vie, un truc comme ça. Il faudrait reprendre le texte. Hein. Siracide 44-20. Alors on retrouve dans les Jubilés, j'ai une liste de textes, je ne vais pas tous vous les donner, qui montrent qu'on réfléchissait justement à ce lien entre la justification d'Abraham et le sacrifice d'Isaac et même les autres épreuves qu'Abraham a connues. Alors maintenant, comment comprendre ce mot justifié? Alors, dikaio, le mot grec, traduit différentes formes d'un mot hébreu qui se dit tzadak. L'intensif, tzidik, ou alors causatif, tzidik, donc les temps, si vous voulez, d'un verbe hébreu. Et dans l'Ancien Testament, ce mot est toujours utilisé dans un contexte juridique. Toujours. Il a un sens juridique même lorsqu'il n'est pas utilisé dans un contexte légal. Il est souvent utilisé dans le contexte du tribunal, où vous voyez un procès, mais même dans les autres contextes où on n'est pas dans le contexte du tribunal, il y a un sens juridique au mot. Le verbe désigne le verdict favorable, l'acquittement, la déclaration que la personne en cause est en règle avec la justice. Et le mot est utilisé comme comme contraire du verbe condamner. Et on trouve d'ailleurs l'interdiction, plusieurs reprises, de justifier le méchant. C'est-à-dire de déclarer le méchant non coupable. Voyez. Très fréquent, cela. Le mot, donc, a un sens juridique très fort dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas un sens moral. Ce n'est pas rendre quelqu'un juste. Changer quelqu'un pour qu'il devienne juste. C'est déclarer juste. Alors, en grec, dans la Septante au Nouveau Testament, l'adjectif juste et le nom justice peuvent avoir un sens moral. La justice, c'est ce qui est bien. Ce n'est pas seulement ce qui est juridiquement bon ou juste. Et un homme juste, on pourrait traduire cela par un homme bon, souvent. Mais le verbe justifier, est toujours utilisé dans un sens juridique. Le sens non juridique n'est pas attesté. Dikaioō, donc justifier, veut dire considérer comme juste, estimer juste, déclarer juste. Et ça veut même dire administrer le droit. Et fondamentalement, l'idée qui est derrière Dikaioō, c'est l'idée d'un acquittement. C'est quelqu'un qui est accusé comme coupable et dont on dit qu'il n'est pas coupable. On acquitte. Et le mot même, dans le Nouveau Testament, est utilisé en opposition avec le mot condamné. Ou opposé avec... Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Romains 8, on l'oppose à accuser. Face à l'accusation, il y a le fait qu'on est juste, qu'on est justifié. Dieu nous reconnaît juste. Nous déclare. C'est-à-dire que ce n'est pas rendre juste. Alors, on peut utiliser les mots comme on veut, hein. Les mots n'ont de sens que dans un contexte. Mais il y a un niveau légal, un niveau juridique et un niveau moral. C'est-à-dire que je suis justifié, cela veut dire que, d'un point de vue juridique, je ne suis plus coupable. Je suis rendu juste. Ça veut dire que dans mon expérience concrète morale, mon caractère change et moralement ma vie devient plus juste ou juste. Donc ça ne veut pas dire être rendu juste, être transformé pour être rendu moralement juste. Paul dirait ça, c'est la sanctification. Mais c'est être juridiquement, aux yeux de Dieu, plus coupable. N'être plus coupable. Je suis justifié. C'est un niveau différent. Un registre, l'un, c'est un texte, un mot du registre juridique, l'autre est un mot du registre moral. Alors, le texte... de Jacques. Donc Abraham crut et cela lui fut compté comme justice. Alors il n'y a pas le mot dikaioō qui est utilisé là, mais il y a le mot fut compté comme justice, qui souligne que là on se trouve dans la sphère du juridique. Ça a été mis au compte de la justice. C'est compté comme justice. Est considéré par Dieu comme juste et pas comme un coupable. Ça va ? C'est donc un mot juridique. Alors, comment comprendre dans le texte de Jacques le lien entre la foi et les œuvres dans cette justification d'Abraham, selon le texte? Alors, je relis le texte. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne peut-il pas justifier, là il y a le mot du caillot, ne peut-il pas justifier par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Là il y a le mot compté comme pour justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Alors, comment Jacques présente-t-il le lien entre la foi et les œuvres dans cette justification d'Abraham? Au verset 21, l'affirmation porte sur les œuvres, le rôle des œuvres. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres? Mais en disant cela, Jacques souligne en fait, selon le verset 22, que dans ses œuvres, il y a la foi. Verset 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Le mot qui est utilisé est un mot qui a eu beaucoup de retentissement en théologie, c'est le mot synergei, que la foi coopérait avec ses œuvres. Synergisme. En théologie, que la foi, mais ce n'est pas du synergisme, on y reviendra, que la foi coopérait avec les œuvres. On pourrait dire les choses ainsi. En Genèse 22, on a l'épreuve de la foi d'Abraham. C'est d'ailleurs dit en Genèse 22, verset 1. Je le reprends. Genèse 22, verset 1. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il y a une épreuve. Donc en Genèse 22, verset 1, la foi d'Abraham est mise à l'épreuve. Et c'est à cause de sa foi qu'il est amené à faire ses œuvres. La foi coopérer avec ses œuvres. Et le texte, et alors Jacques ajoute, qu'en retour, donc la foi coopérer avec ses œuvres, et en retour, c'est par les œuvres que la foi fut rendue parfaite. Téléo. En retour, donc la foi a été amenée à maturité par les œuvres d'Abraham. La foi coopère avec les œuvres, il y a la foi. Il y a la foi, Genèse 15. Et Genèse 22, les œuvres coopèrent avec cette foi. L'épreuve. Et en même temps, les œuvres amènent cette foi à maturité. Alors d'où est-ce que Jacques tire la présence de la foi dans son raisonnement? Il le dit au verset 23, dans le texte. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Lorsque l'on prend Genèse 22, il n'est pas question de la foi d'Abraham dans le texte. Alors, pourquoi est-ce que Jacques, elle est sous-entendue, de manière très... Mais d'où est-ce que Jacques tire cette notion de foi coopère avec les œuvres et la foi qui est amenée à perfection? Eh bien, c'est de Genèse 15. Il le dit au verset 23. Mais je ne sais pas si vous voyez un petit peu le saut que fait Jacques. Il dit « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture ». Mais qu'est-ce qui s'accomplit? C'est la foi qui s'accomplit. La foi s'accomplit dans les œuvres, dans l'œuvre, ça s'appelle Isaac, qu'Abraham a faite. C'est comme si la relation entre la foi et les œuvres était une relation d'accomplissement. Il y a la foi, il y a les œuvres. L'Écriture annonce en Genèse 15 qu'Abraham est justifié par la foi, mais cette Écriture de Genèse 15 est comme accomplie dans ce qu'elle dit dans Genèse 22. L'Écriture dit dans Genèse 22. Mais l'Écriture qui s'accomplit en Genèse 22, c'est la foi d'Abraham qui arrive à sa maturité en Genèse 22, qui arrive à sa perfection en Genèse 22. Oui.
Et puis est-ce que l'utilisation au verset 21 de « être » qui est un peu à montre que les œuvres, c'est pas un agent de passif, c'est au travers, à partir des œuvres, non, c'est pas, est-ce qu'il n'y aura pas quelque chose à tirer de là aussi? Parce que le français par la foi, c'est trompeur aussi. On pourrait penser qu'Abraham est justifié par la foi, comme si la foi était l'acteur, alors que la foi est révélatrice. Non, l'œuvre est l'actrice, alors que l'œuvre est le moyen. Est-ce qu'il y a une nuance dans l'utilisation?
Alors, il y a à coup sûr une nuance, mais cette nuance est la même pour la foi. Ce n'est pas la foi qui nous justifie, c'est Dieu qui justifie. Et nous sommes justifiés au moyen de la foi. Mais Jacques utilise le « ex » pour les œuvres ici, de la même manière que Paul va utiliser le « ex » pour la foi, dans Romains 1, 18 par exemple. Nous sommes justifiés « ex » pistéos, par la foi.
Et quand Paul dit « ce ne sont pas par les œuvres »,
Oui, certainement, oui. Oui, oui ou c'est dia ou ex, mais alors là, vraiment, il n'y aura... Je pense que on ne peut pas... je pense pas que l'utilisation de dia ou de ex change quoi que ce soit. Oui, non. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas hupo, c'est-à-dire nous sommes justifiés par Dieu au moyen de la foi. Et là, Jacques dit, nous sommes justifiés par Dieu, bon, il ne le dit pas, mais c'est sous-entendu, au moyen des œuvres. C'est la même construction.
Est-ce que le texte de la Genèse, déjà lui-même, n'imposait pas déjà cette idée que, parce que ce qui est frappant, c'est que, après le sacrifice d'Isaac, l'ange de l'Éternel appelle Abraham, et lui dit, parce que tu as obéi, parce que tu as fait cela, tu n'as pas refusé. Et il lui redonne les bénédictions qu'il lui avait déjà données.
Oui.
Finalement, c'est un accomplissement déjà dans le texte de la Genèse. Quelque chose qui était promis, que Dieu avait promis par avance, et il refait la même promesse finalement en disant parce que tu m'as pas.
C'est une confirmation. Voilà. Il y a une confirmation constante de la promesse initiale et de la justification initiale qu'on a dans Genèse 15:6. Oui. Il y a une sorte d'accomplissement, de progression, c'est sûr. Une réactualisation, une nouvelle confirmation.
En Genèse 15, il n'y a pas la condition. Je te bénirai, puis il y a cette épreuve, et parce que tu as réussi l'épreuve, je te bénirai comme je l'avais dit.
Oui. De même que parce que tu as cru en Genèse 15, et bon, beaucoup d'autres choses, je te donnerai le pays, etc., etc. Oui. Alors, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, ce qu'il y a d'étrange. C'est que, regardez le raisonnement de Jacques. Jacques dit, Abraham a été justifié par les œuvres. Pourquoi ? À cause du sacrifice d'Isaac. La preuve, c'est le texte. Abraham croit en Dieu, c'est la difficulté pour justice. Mais c'est incroyable, c'est aberrant, à première vue. Parce que le texte de Genèse 15, c'est pas Genèse 22. Genèse 15, c'est avant Genèse 22. Mais Jacques cite Genèse 15 à l'appui des œuvres de Genèse 22, en disant, vous voyez bien que l'Écriture dit qu'Abraham était justifié par la foi, Genèse 15, donc c'est bien par les œuvres qu'il a été justifié. Vous comprenez le raisonnement, il est assez étrange. Est-ce que vous comprenez? C'est un raisonnement qui disons, il y a quelque chose, il y a une logique entre le verset 21 et le verset 23 qu'il faut bien comprendre. Comment Jacques peut-il dire qu'Abraham a été justifié par les œuvres en citant à l'appui un texte qui parle de la justification par la foi d'Abraham? Eh bien, il peut le dire parce que entre Genèse 22 et Genèse 15, il y a un lien qui est un lien logique, inévitable, incontournable, entre la foi et les œuvres. Parce que la foi d'Abraham coopère avec ses œuvres, et que les œuvres amènent la foi à la perfection. Cela fait que, entre la foi et les œuvres, il y a un lien d'accomplissement de Genèse 15 en Genèse 22. Ce lien est incontournable. Qu'est-ce que veut dire Jacques par là? Jacques veut dire par là qu'il est impossible de séparer d'aucune façon la foi et les œuvres. Jacques ne les confond pas, parce qu'il parle de foi et d'œuvres. Mais il souligne par sa réponse qu'on ne peut pas, dans la vie d'Abraham même, séparer la foi des œuvres, parce qu'entre Genèse 15 et Genèse 22, il y a un lien indissoluble qui lui permet de dire que c'est en vertu de ses œuvres qu'Abraham était justifié, parce que ses œuvres sont des œuvres qui incluent implicitement la foi. De même que sa foi, elle est présente en étant rendue parfaite par les œuvres. Lorsque l'on réfléchit à l'exemple d'Abraham, semble souligner dire Jacques, on a là l'exemple même d'une foi vraie qui donc s'authentifie par des œuvres. La seule foi vraie qui existe est une foi authentifiée. Si la foi n'est pas authentifiée, c'est la foi des démons, la foi de l'orthodoxie morte. Mais la justification d'un homme comme Abraham prouve que la foi dont il est question ne peut être qu'une foi authentifiée. Est-ce que je suis clair? Oui? Ça va? Bon. Alors, il va bien sûr falloir après réfléchir à la manière dont on comprend ça par rapport à Paul. Mais qu'est-ce que cela veut nous dire pour l'instant? Qu'est-ce que Jacques est en train de nous dire? Jacques est en train de nous parler d'une situation dans une église où il y a des gens qui prétendent qu'on peut avoir la foi tout seul. Et Jacques est en train de leur répondre, chers amis, cette foi-là, non authentifiée, est la foi des démons. C'est une foi d'orthodoxie morte. La seule foi qui sauve et qui existe est une foi qui nécessairement est authentifiée. L'exemple d'Abraham le prouve. Car comment Abraham a-t-il été déclaré juste aux yeux de Dieu? C'est précisément par ce type de foi qui s'est accompagné des œuvres. Le travail exégétique débouche souvent sur des considérations dogmatiques. Et ça, c'est une considération dogmatique. Qu'allons-nous alors appeler une fois authentifié, etc. Enfin bon, bien. Je dirais, pour l'étude du texte, c'est pas notre problème pour l'instant. Nous nous contentons de souligner ce que Jacques est en train de dire et même d'enseigner. Alors, nous pouvons bien sûr nous poser la question. Hein, qu'est-ce qu'une fois authentifié et en quoi consiste cette authentification? Bon, on va y revenir après, parce qu'on va avancer dans l'étude du texte. Mais c'est sûr que le brigand a été sauvé, puisque Jésus le dit, donc la foi qu'il a eue est une vraie foi, qui n'est pas la foi des démons, ni la foi de l'orthodoxie morte. Mais c'est une foi qui sauve.
Il a confessé. Parler de changer de ton par rapport à une insulte.
Oui.
Les deux brigands semblent avoir eu au départ.
Absolument. Oui. Oui.
C'est mon avis. Faites une différence entre authentification et ratification.
C'est pas nous qui ratifions, nous authentifions et c'est Dieu qui ratifie. C'est Dieu qui considère cette foi comme authentique. C'est pas un autre.
Je me demandais si vous faisiez une différence à ce niveau-là.
Que voulez-vous dire lorsque l'œuvre ratifie?
Est-ce que vous changez le concept d'authentification par des notions de ratification ou pas? C'est ce que je cherche.
Et qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Donc ratification, ça voudrait dire prendre officiel.
Ratifier la foi. Ça voudrait dire que Dieu, qu'on considère que cette foi, qu'on déclare que cette foi est une foi vraie. Je ratifie un traité ou un truc comme ça, c'est de le signer pour dire que je m'engage, je considère que ce traité m'engage.
Non, je pensais plutôt de rendre efficient, justement. C'est-à-dire que mon œuvre va rendre efficient le germe de ce salut, le germe de cette foi.
Rendre efficient, c'est une foi vivante, hein. Elle est réelle, la foi d'Abraham était réelle, elle est amenée à plus de perfection, à plus de maturité, donc il y a une croissance dans la foi, dans la relation à Dieu, par l'œuvre, mais ratifier, non, je dirais plutôt authentifier. Ouais. Oui.
Le niveau se casse. Jacques, c'est « montre-moi la foi ». Donc c'est au niveau du dialogue entre deux personnes. C'est pas Dieu qui nous demande, bien qu'il y ait des œuvres, bien sûr, je veux dire, Dieu n'a pas besoin que nous nous montrions par nos œuvres de foi, qui sait quoi. En fait, là, Jacques, il se passe une situation d'église, face à des gens, face à qui on peut juger leur foi en vertu des œuvres qu'ils expriment, là. Ou bien on est dans un niveau.
Ah ben, le texte de Romains, alors j'allais aborder un peu cette question à la fin, mais bon, on peut juste dire un mot. Jacques 2:21 dit Abraham fut justifié par les œuvres. Est-ce que ça veut dire qu'il fut justifié devant les hommes ou justifié devant Dieu? C'est devant Dieu. Calvin, étant très gêné par ce texte, dit qu'il est question d'une justification des hommes devant les d'une justification devant les hommes. C'est-à-dire que nous prouvons par nos œuvres aux hommes que notre foi est authentique. Mais là, je n'arrive pas à suivre Calvin. Le mot est tellement fort et justifié par les œuvres, et c'est, il y a la suite du texte du verset 23 qui dit que c'est une justification devant Dieu. Abraham fut compté, sa foi fut comptée pour justice, que pour, c'est notre situation face à Dieu qui est en jeu. Et donc, la justification par les œuvres joue dans notre relation face à Dieu. Et je crois que ce serait un raccourci exégétique, un faux fuyant, que de dire qu'il est simplement question là d'une sorte d'authentification devant les hommes. Je pense que Calvin là, exprime sa gêne face au texte.
Mais dans le sens, c'est assez étrange de dire que Dieu ne pourrait pas avoir notre foi, ne pourrait pas savoir quoi elle est faite si elle ne suit pas.
C'est clair, mais le texte dit que ce n'est. Alors, on peut continuer. Hein. Oui, verset 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement, devant Dieu. Alors ce n'est pas que Dieu ne pourrait pas, mais c'est que le texte semble dire que Dieu ne le fait pas. Dieu nous regarde non seulement en ce qui concerne notre foi, mais aussi en ce qui concerne ce que nous faisons. Et que face à lui, il y a un problème de justification. Oui. Oui. La grâce intervient quand? Mais oui, mais bon, on essaie de comprendre le texte. Hein. Mais oui, alors. Alors.
La cause première du salut, c'est la foi, mais la foi, c'est exprimée dans les autres.
Et peut-être on peut pas séparer les deux, tout simplement. Et on se trouve là. On se trouve là dans un... C'est quelque chose... On essaie de comprendre Jacques. Hein. Et on se bat dans notre tête avec une problématique paulinienne, avec l'utilisation des mots par Paul. Mais bon, on va y venir. Je ne réponds pas trop, hein, parce qu'on va y venir. Oui. Absolument. Alors ça, c'est ce que Jacques essaie de montrer lorsqu'il parle d'Abraham, et c'est ce que j'essaie de dire. Je reprends le raisonnement. La foi sans les œuvres est morte. C'est l'affirmation de Jacques. Si elle est seule. Il annonce l'objection. Verset 4. Non, verset 17. 17. Puis, verset 18 à verset 23, objection à la thèse de Jacques, réponse de Jacques. Quelle est l'objection? Ah non, Jacques. On peut avoir une foi authentique seule, sans les œuvres. Jacques dit, ah bon? Ah ben montre-moi cette foi-là sans les œuvres. Moi je vais te montrer la foi par mes œuvres. Regarde Abraham. Par quoi a-t-il été justifié? C'est par les œuvres. La preuve, c'est que, et c'est là qu'il y a le raisonnement étrange de Jacques, il va citer Genèse 15, où les questions de la justification sont par la foi, mais la preuve c'est quoi? Eh bien c'est que la foi dont tu te prétends, toi, notre père, c'est bien Abraham, toi qui es chrétien juif, et qui dit qu'on peut avoir la foi seule, mais regarde ton père. Il a eu la foi seule? Tu sais très bien que non.
sa foi, Genèse 15, coopérait avec ses œuvres. Genèse 22, sacrifice. Et les œuvres ont amené sa foi à la perfection. La preuve, eh bien, c'est ce qui est dit dans Genèse 15. C'est que la foi par laquelle Abraham a été justifié s'est accomplie en Genèse 22. Ainsi s'accomplit l'Écriture. Il y a un lien d'accomplissement entre la foi et les œuvres d'Abraham. C'est pas possible. L'histoire, tu le sais bien, toi qui te dis juif chrétien, ton père est Abraham. Tu le sais très bien. La vie d'Abraham s'est pas arrêtée à Genèse 15. Dieu a déclaré Abraham juste dans cette, avec cette foi qui est une foi qui suscite des œuvres et qui est amenée à la perfection. C'est pas possible de dissocier. Ta foi dont tu parles, toi qui es toute seule, elle n'existe pas dans la vie d'Abraham. Ce n'est pas de la foi, cher ami. Toi, homme vain, tu réfléchis pas. C'est ce que Jacques dit, hein. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Insensé. C'est le mot, j'essaie de vous transformer le texte de Jacques en prédication. Insensé. Comment peux-tu seulement imaginer qu'il existe quelque chose comme de la foi toute seule? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Oui, oui. Mais ça, c'est mort. C'est les démons qui ont cette foi. La foi, c'est pas tout ça. C'est toujours avec et pour les œuvres. Et c'est cet Abraham-là qui est juste aux yeux de Dieu.
En fait, ce qui me dérange, c'est parce que chez Jacques, c'est peut-être notre passé parce qu'il y avait eu des mérites. C'est ça qui nous gêne, c'est pas Jacques. Jacques est logique, cohérent. Mais c'est peut-être notre passé historique. Est-ce que c'est dans la bonne interrogation, ce rapport? C'est, je vais vite faire des œuvres pour me justifier sans que ces œuvres, finalement, proviennent de là.
Oui, alors. Oui, alors nous allons y venir. Pardon, je regrette, hein, tu...
Oui,
je te frustre constamment.
Non,
oui, non, mais c'est bien de se poser des questions. On essaye, parce que là, qu'est-ce qui se passe? On est face à l'Écriture, et on est face à une autre formulation que celle de Paul. La tête travaille, on dit, par rapport à tout notre passé, comment comprendre ces textes? Comment comprendre ces textes par rapport aux autres textes de l'Écriture? Alors, on n'a pas fini. Il y a l'exemple de Rahab. Et on va y venir, hein, à ces questions-là. Il y a l'exemple de Rahab. La fin du texte. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme, il y a quelque chose qui s'est arrêté là, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Ça s'est arrêté. Alors, vous vous souvenez de la structure, je vais assez vite là-dessus. Vous vous souvenez de la structure que j'ai proposée? Nous n'avons pas là un deuxième exemple qu'il faudrait mettre sur un même plan que celui d'Abraham. Nous ne sommes plus là dans la réponse à l'objection. La réponse à l'objection, c'est dans le « je tue ». Toi, homme vain, tue. Versets 18 à 23. Là, nous sommes dans la conclusion du texte. Verset 24, vous voyez, il y a un vous. Et donc, il me semble que cet exemple de Rahab est employé par Jacques pour dire autre chose que simplement ce qu'il a dit avec l'exemple d'Abraham. Pourquoi, donc, est-ce que Jacques mentionne ici Rahab? doctrine rare. Alors, je ne vais pas rentrer dans toute la discussion. Est-ce qu'il la mentionne comme ça, une sorte de pensée après coup, pour faire rentrer le clou, hein, taper encore un peu dessus? Ou est-ce qu'il la mentionne pour donner l'exemple de quelqu'un qui est particulièrement loin du peuple de Dieu et qui s'en rapproche au travers de ce qu'elle fait en faveur des espions? On peut remarquer d'ailleurs qu'il ne mentionne pas la confession de foi de Rahab. Vous savez que dans le texte de Josué, Rahab confesse sa foi dans le Dieu. Elle fait confiance à ce Dieu de l'Éternel, ce Dieu des Juifs qui sont venus pour envahir son pays. Jacques ne le mentionne même pas. Alors il me semble, et je saute là, je saute un peu toute une partie pour aller un peu plus vite. Il me semble que si Jacques mentionne ici Rahab, c'est pour revenir au sujet qu'il a par lequel il a commencé cette section. Le problème de l'accueil des pauvres. Parce que dans la littérature juive de l'époque du premier siècle, dans la littérature intertestamentaire, Rahab est souvent mentionnée comme une femme qui a exercé l'hospitalité envers les espions. Et je remarque que ce que Jacques relève, c'est que Rahab a reçu les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin. Elle a pris soin de ceux qui étaient en danger de mort. Sa foi, ses œuvres, ça a été de se mettre concrètement au service de ceux qui étaient en danger de mort. Il me semble qu'au travers de l'exemple de Rahab, la justifiée, Jacques revient à la problématique des riches et des pauvres dans l'Église, en rappelant que les œuvres que Dieu attend de nous sont les œuvres de miséricorde, d'accueil de ceux qui ont besoin de l'aide des frères. Disant en gros cela, vous avez maintenant compris le principe de la justification. On n'est pas seulement juste aux yeux de Dieu en prétendant avoir la foi ou en énonçant une bonne foi. On est juste aux yeux de Dieu lorsque cette foi est une foi qui s'exprime par des œuvres telles que Dieu les attend. Mais quelles sont ces œuvres? Voilà ce que Jacques est en train de dire. Et bien ces œuvres, ce sont les œuvres que Rahab a faites. Ah oui, pardon, c'est la Bible, c'est la Bible. Ce sont les œuvres que Rahab a faites. Et si vous n'avez pas ces œuvres, verset 26, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alors je finis par cette remarque. Nous avons vu que la foi qui ne sauve pas et que dénonce Jacques, c'est la foi toute seule, telle que nous l'avons expliquée. C'est la foi comprise à la manière juive. C'est la confession de la juste foi. Et que Jacques souligne que la seule foi qui sauve, c'est la foi qui s'accompagne des œuvres. Il va falloir maintenant comprendre ce que sont ces œuvres. Et nous avons déjà essayé, nous avons déjà vu avec l'exemple de Rahab que ce sont des œuvres de miséricorde. Mais est-ce que Jacques utilise le mot œuvre à la manière dont Paul les utilise ou pas? Quand Paul parle des œuvres, qui nous sommes sauvés par la foi et pas par les œuvres,
Paul veut parler d'œuvres qui nous permettraient de revendiquer la justice de Dieu, de la gagner. Ou est-ce que Jacques parle de tout à fait autre chose lorsqu'il parle d'œuvres? De quelles œuvres parle-t-il? Qu'entend-il par œuvre? Qu'entend-il lorsqu'il dit que nous sommes sauvés par la foi et aussi par les œuvres? Mais quoi comme œuvre? Est-ce que ce sont des œuvres comprises à la manière de Paul? Ou pas? On voit déjà que le mot foi, il ne comprend pas la manière de Paul. Lorsque Paul parle de la foi, c'est une foi qui engage tout l'être. Jacques critique la foi qui n'engage pas. Cette foi-là, elle ne sauve pas. On n'est pas sauvé par cette foi-là, seul. À cette foi, cette confession de foi, doivent s'ajouter les œuvres. Donc Jacques emploie le mot foi dans un sens assez différent de celui de Paul. Qu'en est-il maintenant du mot œuvre? Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre cet après-midi en étudiant la section qui précède. Oui.
L'exemple de Rav aussi n'est pas là pour la construction du texte. On a une introduction avec la question à comment dire, et puis ensuite un exemple qui rend quelqu'un. Sinon, on a une conclusion. Vous le voyez, il y a un exemple. Rav, la prostituée, par rapport à l'introduction.
C'est ce que je voulais dire, c'est que la conclusion renvoie à l'introduction. C'est que dans l'introduction, on a quoi? On a affaire à des gens qui ne prennent pas soin de leurs frères. Dans la conclusion, on a affaire à un exemple de quelqu'un qui a pris soin. Ça, c'est les œuvres qui sont attendues de Dieu, soin de ceux qui avaient besoin d'aide. La conclusion répond à l'introduction.
Même dans la structure.
Même d'un point de vue très formel, il y a question, exemple, conclusion. Voilà. Et dans la conclusion, il y a affirmation, exemple, conclusion. Oui.
Et au verset 15 et 16, quand on voit des hommes nus qui manquent de nourriture et la personne qui. Dans l'Ancien Testament, ne revoit assurément pas les hommes qui sont en quête de salut, simplement humain, qui doivent faire grave.
Tout à fait. Oui. Oui. Absolument. Et c'est pour ça que je crois que Jacques renvoie l'exemple de Rahab dans la conclusion. L'exemple de Rahab n'est pas à traiter sur le même niveau que l'exemple d'Abraham. L'exemple d'Abraham sert à prouver ce que Jacques dit en réponse à son contradicteur. Par contre, l'exemple de Rahab sert à montrer le type d'attitude qu'il faut avoir dans la situation concrète que vit l'Église, une situation de richesse et de pauvreté où l'on méprise des riches.
Oui, Rahab, elle a apporté son aide à des ennemis, et je puis dire, elle était dans des gens qui étaient finalement des ennemis, et vous n'êtes même pas capable de le faire vis-à-vis de vos propres frères dans l'Église.
On peut alors bien sûr développer la chose et dire cela aussi, absolument. Ouais. Ouais. Voilà, on arrête là, on va voir ce qu'on tira cet après-midi. D'abord pour les travaux, il y a des questions qui m'ont été posées en ce qui concerne la validation de secours pour la fac. Alors il y a des gens parmi vous qui sont là et qui ne veulent pas valider le cours, qui sont là pour leur formation personnelle et leur édification et ce qui leur permet de rendre un meilleur service dans l'Église, c'est très bien. Mais il y en a aussi certains qui veulent valider le cours. Alors il y a deux validations possibles, je l'ai dit la dernière fois. Il y a la validation de la demi-HSA que représente le cours en heures. Les 12 heures que nous donnons ici sont en gros l'équivalent d'une demi-HSA à la faculté, une demi-UV, si vous voulez. Alors, vous le validez en faisant l'une ou l'autre dissertation que je vous ai donnée. sur la photocopie, que je vous ai passé, que je vous ai indiqué, sur la photocopie que je vous ai donnée la fois passée. L'une ou l'autre dissertation. Si vous voulez valider une HSA, complète, il faut faire les deux dissertations qui sont indiquées sur le papier. Alors, en quoi consiste cette dissertation? Alors, pour une dissertation, il y a d'abord... j'en ai un peu discuté à table, etc. Donc, on en a un peu parlé. On est en train de réfléchir à une manière qui nous permettrait de peut-être vous aider à mieux savoir comment peut se faire une dissertation d'exégèse, ou de théologie, ou de dogmatique. Alors on est en train de réfléchir à ça, enfin qu'on en discute, enfin qu'on voit aussi avec les profs, peut-être qu'on pourrait faire un week-end spécial là-dessus, aussi sur des prédications, avec des choses qui seraient préparées, donc tout un travail de méthodologie. Ça c'est quelque chose qui est envisageable pour dans les mois qui viennent ou l'année prochaine. Mais, pour l'instant, ce que je peux dire, c'est que lorsque vous préparez une dissertation d'exégèse, ou d'étude de texte, vous étudiez le texte. Vous voyez d'abord à quelle section du texte ce texte appartient. Un texte, un verset ne s'étudie jamais tout seul. Il appartient à une partie de texte. Donc voir à quelle partie du texte ça appartient, et essayer de le voir dans le contexte. Deuxièmement, eh ben vous lisez plusieurs traductions, si vous ne savez pas le grec. 5-6 traductions. Voir un peu quels sont les problèmes qui se posent, apparemment en tout cas. Puis vous prenez des commentaires. 2-3 commentaires. 4 commentaires. Et puis après, la dissertation, par exemple, sur Jacques 4-5, consiste à dire, à présenter les différentes interprétations et à donner les raisons pour lesquelles cette interprétation est intéressante et pour lesquelles cette interprétation pose des problèmes. Et de, au fur et à mesure que vous élaborez l'exégèse du texte à partir des exégèses possibles, en disant les raisons pour lesquelles on peut retenir un tel point de vue ou non, eh bien vous arrivez vous-même à dire à quelle conclusion vous parvenez vous-même. Alors en gros, ça veut dire Jacques 4-5 appartient à telle section. Voilà quels sont les problèmes qui se posent dans cette section, dans ce verset. Alors je ne sais plus ce que vous avez donné comme sujet exactement. Il y a le sens de tel mot, il y a quelle est la citation de l'écriture. Bon, voilà. Voilà quels sont les problèmes qui se posent. Quelle solution ? Pour les uns, et vous présentez les solutions. Pour les autres, voilà. Puis vous dites, voilà les arguments en faveur de telle interprétation, mais voilà les arguments contre telle interprétation. Et vous élaborez votre sujet comme ça. Il faut que ce qui marque votre travail soit la rigueur. Chaque chose doit être argumentée. Et que vous attaquiez au problème du texte. Ne dites pas ce qui est évident. Mais dites, voilà où il y a les problèmes, je vais donc essayer de les résoudre. Et voilà quels sont les arguments pour et contre telle ou telle interprétation. Hein? D'accord? Vous voyez un petit peu la démarche. Et ça, il faudrait bien sûr voir concrètement à partir de, en prenant du temps, voir comment il faut faire. Est-ce que c'est assez clair? Enfin, essayez de faire ça. Pour ceux qui veulent faire le travail. Alors, nous revenons maintenant à Jacques. Alors, attendez, ici encore. Ah oui, la bibliographie. On m'a demandé la bibliographie pour une bibliographie plus complète. Alors, si vous avez besoin d'une bibliographie plus complète, une liste d'ouvrages qui traitent soit de Jacques 4-5, soit du thème de la sagesse dans Jacques, vous m'envoyez un email ou vous m'écrivez un mot, je vous enverrai en email ou en photocopie une bibliographie un peu plus complète sur le sujet qui vous intéresse. En français, il n'y a pas grand-chose, en dehors de ce que je vous signale déjà sur la bibliographie que je vous ai distribuée. Il y a Vouga en particulier. Et dans Vouga, vous avez une bibliographie en notes, qui peut être intéressante. Le commentaire de Vouga. Ça va ? Mais sur les versets précis, par exemple Jacques 4, 5, il y a une biographie plus complète. Sur le thème de la sagesse, il y a aussi certaines choses qui peuvent être intéressantes. En anglais, en
fait. Pour la lumière, c'est ça, c'est l'une ou l'autre, les deux, les deux.
Pour une demi, c'est l'une ou l'autre. Pour une, c'est les deux. Ouais, normalement, ça te fait tout le monde là. Alors, tout le monde n'a pas aussi. Ah non, je ne l'ai donné qu'à ceux qui font la HSA entière. Ah là, c'est ça. Ah bon? Ah bon, alors elle a passé à l'as dans les photocopies. Je ne l'ai malheureusement plus qu'un exemplaire. Je peux vous le passer? C'est possible de le photocopier et de le donner à...
Combien il en faut?
Mais peut-être pas le faire maintenant, hein, on peut le faire...
Tout à l'heure. Combien?
Ou pas la prochaine fois.
2, 3, 4, 5. Si la photocopie ne marche, je regarde tout à l'heure.
Ou alors on le prépare pour la fois prochaine.
Ouais.
Je n'ai plus. Bon, nous revenons donc maintenant au texte de Jacques. Où sommes-nous parvenus jusqu'à présent? À quoi plutôt? À quoi sommes-nous? C'est de m'excuser, hein, je suis un peu fatigué là, la tête. Mais bon, c'est le rhume, sans parler du vin. Bon, nous avons vu que la situation... à laquelle Jacques doit répondre est une situation de manque d'intérêt ou d'une absence de souci pour les pauvres dans l'Église. On sent qu'il y a des tensions internes à l'Église, ce que confirme d'ailleurs le reste de l'Épître. Et Jacques doit répondre à une telle situation. Il y répond en posant le problème de l'importance des œuvres dans la vie chrétienne. Et souligne qu'une foi qui se contente d'énoncer la vérité, de confesser par des mots uniquement ce qu'est la vérité, est une foi qui est une foi morte, c'est une orthodoxie morte, c'est la foi des démons. Qui confessent, mais ça ne change pas leur vie. Pour Jacques, la seule foi qui justifie, par laquelle on est justifié, c'est Dieu qui justifie, la foi qui permet d'être juste aux yeux de Dieu, est une foi qui coopère avec les œuvres et que les œuvres amènent à maturité. L'exemple qu'il donne pour prouver ce qu'il dit, c'est l'exemple d'Abraham, dont la foi s'est accomplie dans l'œuvre, j'utilise des mots que Jacques utilise, dans le sacrifice d'Isaac. Les œuvres ont accompagné la foi d'Abraham. En conclusion, on peut dire que la foi dont parle Jacques, et à laquelle il s'oppose, le mot foi qu'il utilise, n'a pas le même sens que chez Paul, je dis ça à la fin, c'est une foi de confession de foi. Et cette confession de foi n'est une vraie foi que si elle est accompagnée des œuvres. Maintenant, il va falloir nous définir un peu plus précisément ce que sont les œuvres auxquelles Jacques fait allusion dans son texte. Nous avons déjà vu par l'exemple de Rahab qu'il mentionne à la fin du texte, que ses œuvres renvoient en particulier à la nécessité de la miséricorde à l'égard des pauvres. C'est en tout cas ce que suggère la présence de l'exemple de Rahab. Mais on peut être plus précis en étudiant la première partie du chapitre 2, ce que nous allons faire rapidement. Chapitre 2, verset 1. On va relire, on va lire le texte. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique. Qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu, si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là, debout. » Ou bien « Assieds-toi au-dessous de mon marchepied. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Écoutez, mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. » Alors, il est clair que dans ce texte, on nous parle des œuvres, ce à quoi le chrétien est appelé. Un mot d'abord sur la structure du texte. On voit exactement, on voit une structure parallèle, presque identique, à celle que nous avons mise en évidence dans la deuxième partie du texte, versets 14 à 26. Vous avez tout d'abord, au verset 1, le problème, si vous voulez. Là, c'est que la foi soit exempte de toute acception de personne. Alors, ce n'est pas dit sous forme de question, comme au verset 14, mais c'est le même type d'approche. Jacques pose le problème. Puis, il y a une illustration. Verset 2 au verset 4. L'illustration. Et nous remarquons que l'illustration concerne de nouveau l'attitude par rapport aux pauvres dans l'Église. Il y a ce privilège, ce favoritisme qui vise les riches, que Jacques oppose à l'attitude à l'égard des pauvres. À partir du verset 5, on n'a pas tout à fait la même chose que, dans l'autre section. L'autre section commence par une objection. Là, nous n'avons pas d'objection. Mais nous avons, comme dans les versets 18 à 23, un ensemble, une argumentation, si vous voulez, une argumentation qui cherche à prouver que ce que Jacques dit du favoritisme est juste. Jacques prouve que sa condamnation du favoritisme est juste. De même que dans les versets 18 à 23, il prouve que ce qu'il dit de l'importance des œuvres pour la justification est juste, est fondé. Et on arrive au verset 12, à la conclusion, comme dans les versets 24 et 26, la conclusion de Jacques, « Parlez, agissez, comme devant être jugé par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde, pour qui n'a pas fait miséricorde, la miséricorde comme du jugement. » Conclusion. On a là donc une structure assez identique, qui pourrait presque rappeler une structure de prédication. Avec l'importance de... On souligne le problème, on donne des illustrations, on argumente et on prouve que son point de vue est juste à la lumière de l'Écriture, et on arrive à la conclusion. La synthèse. Alors, dans les versets 1 à 13, se pose le problème du favoritisme. Dans les versets 14 à 26, que nous avons vus ce matin, on a le problème du refus de l'accueil du pauvre, de l'accueil concret, le refus de l'hospitalité, le refus de l'entraide. Deux problèmes qui sont bien sûr proches. Dans ces deux textes, on a deux thèmes clés aussi dans ces deux sections. Je dis cela pour bien souligner l'importance des étudier en parallèle. On a deux thèmes que l'on retrouve, qui sont les œuvres et le jugement. Dans les versets 14 à 26 que nous avons vus ce matin, il est clairement fait question des œuvres. Et dans ces versets, il est question des œuvres qui sont une authentification de la foi. Dans les versets 1 à 13, en particulier dans les versets 8 à 13, il est aussi question des œuvres, mais non plus là des œuvres authentification de la foi, mais des œuvres observance de la loi. Verset 8, « Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain, ça se trouve dans l'Ancien Testament. Hein. » Verset 10, « Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras pas d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras pas » et « Tu ne... » etc. etc. » Il y a là le rappel des 10 commandements. Les œuvres dont il est question dans les versets 1 à 13 sont des œuvres qui sont observance de la loi. Mais il est aussi question du jugement dans ces deux textes. Dans les versets 20 à 26, c'est-à-dire dans les versets que nous avons vus ce matin, il est question de la justification. La justification étant la manière dont Dieu nous juge. Dieu nous juge non coupables. Et dans les versets 1 à 13, il est question du jugement dans toute la section. Alors, c'est assez intéressant de voir qu'on assiste à un basculement dans ces versets 1 à 13, un basculement concernant ce thème. On commence par l'homme qui juge, l'homme juge, et l'on finit par Dieu juge. On trouve que c'est Dieu qui est le juge, à la fin du texte. Alors verset 4, c'est l'homme qui juge. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction. Alors, où est-ce qu'il y a mon texte, Jacques ? Verset 4. Alors, non, c'est le chapitre 2. Verset 4. Dit écrit était, ne jugez-vous pas en vous-même. Ne distinguez-vous pas en vous-même, mais en juge. Le mot, dit le mot grec. Verset 6. Et vous, vous avilissez le pauvre, ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux ? Les riches qui oppriment. Nous avons vu cela la fois passée, parce que nous avons parlé de l'introduction de l'épître, disons, de l'atmosphère. On a vu qu'il y a aussi une atmosphère de persécution. Là, ce sont les hommes qui condamnent. Puis alors, verset 9. Mais si vous faites accession de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi. La loi remplit le rôle d'un accusateur personnifié. La loi nous convainc de culpabilité. Verset 9. On arrive au jugement de Dieu. Le basculement a lieu. Verset 10. On est coupable devant tous les commandements. Verset 12, parlez, agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Toujours cette loi qui juge. Et qui juge de la manière, de manière contraire à ce que les hommes font dans les premiers versets. Et verset 13, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde, la miséricorde triomphe du jugement. Le thème du jugement est présent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on passe du verset 12 et 13 au verset 14, donc d'une section à la deuxième, on passe du problème du jugement, verset 12 et 13, au problème du salut, verset 14. La foi peut-elle sauver ? Telle foi peut-elle sauver ? On passe du problème du jugement à celui de la justification, qui est toujours le jugement pour le salut. Alors vous vous rendez compte de la difficulté que nous pose ce texte. Alors on ne va pas, on n'a pas le temps de l'étudier dans le détail. Mais je vais sauter tout ça. Qu'est-ce que l'on découvre dans cette première section ? On découvre que les œuvres que Jacques va mentionner dans les versets 14 à 26, certainement, auxquels il doit certainement faire allusion dans ces versets 14 à 26, il les définit au moyen de Rabe, mais ce n'est pas très clair. Quelles sont ces œuvres en fait ? Eh bien, ces œuvres, nous soulignent les versets 1 à 13, ces œuvres, c'est simplement l'observance, l'obéissance à la loi. La mise en pratique de la loi de Dieu. Alors, tout de suite dans nos têtes, hein se réveille une petite cloche là qui dit « Ah oui, attention, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de la loi, nous sommes justifiés par la foi seule. » Et là, on a pratiquement, dans la terminologie, le contraire dans Jacques. C'est pas seulement par la foi, mais aussi par les œuvres qui sont mises en pratique de la loi. Verset 8. À 11. Alors il nous faut maintenant creuser cela un peu plus. Nous n'avons pas le temps, de loin pas, d'étudier le détail de ce texte comme nous l'avons fait pour la deuxième section. Mais je vais donc relever certains points qui me semblent importants pour notre sujet de cet après-midi. Pourquoi ou de quelle manière est-ce que Jacques, de quelle manière Jacques s'oppose-t-il au favoritisme dont font preuve les chrétiens auxquels ils s'adressent. Quels sont les arguments qu'ils leur opposent dans les versets 5 à 11. Alors ces arguments sont de plusieurs types. Je vais donc simplement les relever. Il y en aura deux, surtout. Premièrement, ce sont des arguments théologiques. On pourrait appeler ça le motif théologique, versets 5 à 7. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi, héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment ? Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment, qui vous traînent dans les tribunaux ? Ne sont-ce pas eux qui vous outragent ? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez ? Alors, on pourrait
on pourrait dire qu'il y a trois arguments. Mais on va déjà dire, le premier, c'est l'argument théologique, le motif théologique. Le favoritisme s'oppose à l'élection divine. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime?
Il faut comprendre comment il faut comprendre, il les a choisis aussi, il les a choisis eux. Il les a aussi choisis parmi tous les hommes pour aussi bénéficier de la grâce et de la richesse d'un royaume, ou c'est eux qui l'a choisi? Est-ce qu'on est dans le sermon sur la montagne, le relégo, etc. Ou est-ce que donc c'est exclusif?
Alors, je pense que c'est Dieu a choisi les pauvres, pas aussi les pauvres. Je crois que c'est Dieu a choisi les pauvres, mais alors, attention, ce serait une grande erreur par rapport à tout le reste, et même de Jacques, hein, de comprendre cela à la manière marxiste, comme ça a été parfois compris, hein, de lire l'écriture avec des lunettes marxistes, comme si l'élection divine se pliait à la lutte des classes, se confondait avec la lutte des classes, hein, qu'elle suivait la lutte des classes. Je crois que là, Jacques part d'une simple constatation de fait. Ce n'est pas une vérité théologique éternelle que Dieu ne choisit que des pauvres éternellement, volontairement, exclusivement, etc. Mais qu'est-ce que constate Jacques ? Eh bien, c'est que dans l'Église, l'Église qui est devant lui, il y a surtout des pauvres. Ce sont les pauvres qui font partie de cette Église, en très grande majorité. Pensez à l'Église de Jérusalem. Ils étaient obligés de vendre leurs biens, partager entre tous, parce qu'il y en avait qui avaient tellement de besoins qu'ils n'arrivaient pas à subvenir à leurs propres besoins. Aux veuves, acte 6, il fallait faire des discussions à table, il fallait prendre soin des pauvres. Pensez à ce que Paul dit dans Corinthiens 1. Dieu n'a pas choisi les sages du monde, il a choisi des esclaves, des gens méprisés, et ce sont ceux-là qui, dans leur grande majorité, font partie, forment l'Église, dit Paul. Il n'y en a que peu d'entre vous qui sont riches, dit Paul dans Corinthiens. Il y a là une réalité que Jacques constate. Et cette réalité ne peut qu'envoyer une élection divine. Dieu a choisi, a voulu que ce soit comme ça. Oui, tout à fait. Il élève les humbles et tout ça, absolument. Oui. Oui. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La pratique de Jésus-Christ montre qu'il était beaucoup plus difficile à un homme influent, sadducéen, riche, en position de pouvoir en Palestine, d'accepter l'évangile qu'à ceux qui étaient plus exclus, disons, ou des exclus. Oui.
C'est aussi la mission, c'est mon frère mental, quand on est radical, on part tellement, je veux dire, on passe à côté, c'est des heureux les pauvres, malheureux riches.
Oui, alors malheureux riches, mais Jésus-Christ a été, pendant tout son ministère itinérant, soutenu financièrement par des gens riches, par des femmes, entre autres, qui étaient très riches. Donc, ça part plus d'un état de fait, d'une constatation qui renvoie à des réalités spirituelles et à des renvoies théologiques que à une lecture marxisante de l'histoire. Dieu ne veut pas les riches. C'est pas ça. C'est de fait... Nous constatons que l'élection de Dieu d'une façon telle que ce sont les pauvres qui réagissent parce que ce sont eux qui sont ouverts à l'évangile. Dieu choisit qu'il veut, mais alors c'est vraiment ce serait une conception d'élection très fausse de penser que cette élection ne se fait pas par l'intérieur, par les réalités contingentes. Ça, c'est pensé de façon assez musulmane. Penser que tout ça se fait sans tenir compte de l'homme et des réalités et des réalités contingentes. Tout ce que Dieu fait, il le fait au travers sa souveraineté, se fait au travers du vouloir et de l'intelligence des hommes, au travers des réalités culturelles, au travers des réalités politiques, et jamais en court-circuitant ces réalités-là. Alors, c'est quand on constate, eh ben oui, que ce sont des pauvres qui se tournent vers le Seigneur, et eh ben on se rend compte que l'élection divine a choisi ces pauvres. Mais c'est pas pour une raison, pour une conception de l'histoire qui est marxisante, hein, qui régit par la lutte des classes, c'est parce que c'est comme ça. Et c'est comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on comprend que du point de vue humain, ben c'est le pauvre qui est ouvert au royaume. C'est le pauvre qui demande, c'est le pauvre qui cherche, c'est le pauvre qui désire. Et que les riches sont très souvent, orgueilleux, égoïstes, fermés sur eux-mêmes, ont le pouvoir, ne sont pas prêts à se remettre en question, etc. etc., etc. Oui.
On peut faire le même parallèle par rapport à l'église de la Odyssée. Parce que tu dis, je suis riche, je suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, quand tu es venu, tu penses que j'ai de moi de l'or, tu peux dans le feu, parce que tu deviens riche.
Alors là, il y a une description de la mentalité du riche qui est très juste. Ouais. Alors il y a des riches qui ne sont pas comme ça, et qui reçoivent le royaume, et qui sont heureux, et qui c'est pas de la lutte des classes. Mais il y a une mentalité qui va bien avec la richesse. Alors le texte montre que cette interprétation théologique, cette argumentation théologique renvoie à des réalités très concrètes. On n'est pas là dans la théorie de l'élection. On est là dans la manière dont l'élection se vit concrètement dans les communautés que connaît Jacques. C'est la suite, le verset 6. Hein. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux ? Ben oui, on est dans une réalité où c'est les Sadducéens en Palestine, les pouvoirs des juifs aristocrates qui persécutent. C'est cercle du pouvoir qui persécute. Et c'est l'Église. Et bien l'Église est formée de gens beaucoup plus pauvres qui sont persécutés. Il y a une réalité, là. Et Jacques leur dit, mais ouvrez les yeux. Comment pouvez-vous, vous, chrétiens, mépriser ceux que Dieu a élus au milieu de vous pour favoriser ceux qui en fait persécute l'Église. Mais vous perdez les pédales. Ouais. C'est un peu ce que Jacques est en train de leur dire. Vous ne tirez pas les leçons théologiques, l'élection, donc je ne dois pas mépriser le pauvre, et vous ne tirez pas les leçons théologiques de la réalité que vous vivez. Considérez la réalité et vivez en conformité.
Quels sont ces riches qui sont dans l'Église et qu'on honore tellement, alors qu'il dit un peu après que ce sont ces riches qui vous persécutent.
Oui.
Ce ne sont pas les mêmes personnes.
Alors, ce ne sont peut-être pas les mêmes personnes. Vous vous souvenez de l'introduction. On se trouve en situation de judaïté. Bon, je crois qu'on a vu ça. Hein. Bon. Et il me semble que... bon. Mais... Oui, oui, mais non, mais quand on dit c'est pas les mêmes personnes, bon, il faudrait reprendre l'histoire, on pourrait même prendre des cas, j'hésite, mais on pourrait prendre des situations très très concrètes, actuelles. Mais regardez combien parfois. Supposez que Jospin débarque ou Chirac débarque dans notre église. Alors on va honorer le président et tout ça. Bon. Mais il y a quand même bien des choses à dire sur la façon de faire qui ne me semble pas tout à fait bien. Alors il persécute peut-être pas les chrétiens. En Inde, c'est peut-être le cas, dans les pays musulmans, c'est le cas. Bon, mais on va quand même les accueillir comme si c'était la crème de la crème. Mais en fait, souvent, ce sont des crapules. Et pourquoi faudrait-il à ce point faire exception de personne? Alors, quand c'est dans bien des pays où l'Église est persécutée, bon, je pense à l'Égypte, par exemple, ou dans les pays comme ça, on va donner une place très importante peut-être à certains, on va honorer des gens, mais qui en fait partie liée avec des gens qui persécutent les chrétiens. Et ça, c'est quelque chose, ça arrive tout le temps. Enfin, c'est dans des pays. Et alors, dans des pays où on essaye, ou dans des endroits où on essaye d'être bien avec les autorités, avec les gens de la société, alors on va faire des grands sourires, donner des belles places et tout ça, en sachant que par derrière, ils vous font plein de misère. Et ils méprisent publiquement l'évangile que l'on prêche. Donc ces réalités contradictoires me semblent être très humaines et devraient nous poser à nous des questions, la question de savoir quelle est notre façon de manière de considérer les gens qui ont le pouvoir et la richesse dans nos sociétés.
L'opposition entre les attitudes. Et en fait, si on traitait le pauvre de la même façon que cet homme riche, il ne dirait plus rien, normalement. Donc, c'est pas, la faute n'est pas d'accueillir et d'honorer quelqu'un qui a un pouvoir, mais de ne pas traiter le pauvre qui en a tout le temps d'autant droit, de la même façon.
Alors, de manière plus profonde, c'est ça que j'insiste à dire. Mais la question à laquelle j'essaie de répondre, c'est de savoir est-ce que ça pourrait même être les mêmes personnes, hein, le riche auquel on donne la bonne place, le riche qui persécute. Malheureusement, ça pourrait presque être la même personne parfois, dans certaines situations. Mais de point de vue beaucoup plus profond, ce que Jacques demande, c'est qu'on ait la même attitude à l'égard des pauvres qu'à l'égard des riches. On ne pense pas que ce sont des personnes.
La question qu'on peut se poser, c'est à l'époque, dans le contexte de la judéité, pour finir, les chrétiens avaient fondé leur synagogue. Donc les autorités locales, y compris les nobles sadducéens, auraient pu, par hasard ou par curiosité, aller visiter cette nouvelle synagogue.
Oh, ben ça devait se faire.
C'était envisageable.
Ça devait se faire. Les liens de famille étant tels, les années avançaient, et la tension avec Rome, étant de plus en plus grande. Bon, les liens entre les juifs étaient de plus en plus resserrés et l'on exigeait des compatriotes qu'ils aient une bonne attitude. Hein, il y a les zélotes, les sicaires avaient lancé des attentats contre des juifs qui suivaient pas la ligne, hein, la bonne ligne, la bonne direction. On a des récits de massacres de juifs par des juifs, qui s'étaient compromis avec l'occupant romain. Ce que l'on a aujourd'hui en Israël avec les juifs orthodoxes, on l'a eu à l'époque avec les zélotes et les sicaires. Et c'est sûr que dans ces synagogues ou dans ces églises chrétiennes, on ne savait pas très bien comment réagir parfois. On risquait gros si on pactisait trop avec l'occupant, en annonçant l'évangile, en étant ouvert. Et les juifs n'appréciaient pas tellement cela, et puis certains s'en sont fait persécuter à cause de cela. Paul, Tarse et tout ça. Paul, Damas, était allé à Damas. Bon, c'est quand même pour persécuter les juifs chrétiens. Et donc en même temps, on voulait bien se faire voir par ces juifs. Et Jacques est quelqu'un qui est allé très loin dans l'aspect extérieur de sa foi pour être accepté et apprécié par les juifs de Jérusalem. Les pharisiens trouvaient que c'était quelqu'un de remarquable, Jacques. Donc c'est pas facile, situation contradictoire. Mais bon. Donc premier point, c'est le motif théologique. Deuxième point, le motif éthique, et c'est celui-là qui nous intéresse surtout.
le motif éthique. Versets 8 à 13. Jacques va souligner que l'attitude négative des chrétiens à l'égard des pauvres est non seulement folie d'un point de vue théologique,